Pour commencer cette émission, nous retrouvons Jérôme que nous avions quitté hier soir faute de temps. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Est-ce que la nuit a été bonne, Jérôme ?
La nuit est toujours très bonne, je dors toujours très bien.
C'est un moment agréable pour vous,
Alors
la
nuit ? Alors moi, je dois vous signaler que je ne suis pas chez moi, sur mon canapé, en train de regarder la télé, mais dans un parc en train de promener mon chien.
Mais c'est super, aussi.
Ouais. Donc s'il y a certains facteurs, paramètres qui devaient intervenir, ne veuillez pas en prendre compte, quoi, je veux dire, à l'antenne. Quoi.
Qu'entendez-vous par facteurs paramètres ?
Des gens qui passent ou des gens qui crient.
D'accord, d'accord.
Le chien qui aboie.
Non, ne vous inquiétez pas. On est détendu, hein. C'est la vie, hein, ça.
Voilà.
Alors, Jérôme.
Donc, hier soir, je faisais apparaître sur votre antenne, si je me souviens bien, ma problématique individuelle liée à une consommation déraisonnable d'alcool.
Oui.
Enfin, si on peut appeler ça une consommation déraisonnable d'alcool. Je ne sais pas comment se définit l'alcoolisme. Médicalement parlant, moi je consomme à raison de 6 à 8 bières à 8 degrés par jour.
Oui.
Par contre, je ne m'alcoolise pas dans la journée. C'est uniquement nocturne. Pour quelle raison, j'en sais rien. Sans doute l'angoisse de la nuit ou certains autres paramètres, j'en sais rien.
Alors, il y a sans doute dans votre consommation, si elle n'intervient qu'à partir du soir. Il y a sans doute un lien avec l'arrivée de la nuit, une angoisse peut-être liée à la nuit dont vous ignorez l'origine hein, pour l'instant. Visiblement, cela fait un moment que ça dure cet alcoolisme puisque vous m'avez dit hier soir que vous aviez tenté plusieurs méthodes pour décrocher de cette addiction et que pour l'instant...
Oui, c'est ça que je voulais en venir justement. Oui, enfin, comme je disais, cette alcoolisation, je ne sais pas si elle peut être considérée comme déraisonnable, à raison de 6 à, on va dire, 5 à 6 bières par jour, quoi.
Qu'entendez-vous par ça ? Parce que ça
c'est déraisonnable.
Ça n'est pas que ça me gêne, mais ça vous savez, ça sonne comme une mauvaise note. Pour peu que l'on trouve cela déraisonnable.
Voilà,
j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Qui que ce soit le trouve déraisonnable. Ce qui compte, c'est vous et pour vous surtout. Le reste que
non,
les gens
pas.
Jugent 8, 6 bières, 10 bières, il y en a qui vont vous dire que c'est rien, c'est pas grave. Et puis il y en a d'autres qui vont vraiment trouver ça très grave. Et finalement, on n'en a rien à faire de ça. Ce qui compte ce soir, c'est que vous parliez de cet alcoolisme, que vous m'en disiez un peu plus si vous le désirez, bien évidemment.
Voilà.
Et que peut-être on essaie de trouver un début de solution, ou en tout cas qu'on arrive à identifier 2-3 choses qui pourraient vous aider. Mais,
oui,
mais pour que vous sachiez ce que j'en pense moi, je trouve ça déraisonnable. 6 à 8 bières.
Le fait de consommer.
Mais bien évidemment.
5 à 6 bières à 8 degrés.
Mais oui, vous avez 48 ans, tous les jours, 5 à 8 bières à 8 degrés. Ça vous tue à petit feu. Déjà, ça,
sans
c'est...
Sans compter les... Je me permets de vous couper, excusez-moi.
Allez-y, je vous en prie.
Sans compter les différentes autres formes de dépendance, quoi, je veux dire, quoi, qui peuvent se... Comment dirais-je... Qui peuvent être la cigarette, à raison de... Bah, quand on boit, ça amène le fait de fumer plus... de manière plus importante, donc à raison de 2 paquets de cigarettes, à raison de 2 paquets de cigarettes qui sont des grandes cigarettes, quoi, je veux dire. Donc ça fait 3 paquets de cigarettes par soirée, quoi, je veux dire. Sans compter évidemment les cigarettes que je fume dans la journée. D'autres formes d'addiction pouvant venir se greffer là-dessus aujourd'hui aussi. Pas toujours, mais parfois, je suis tout seul ce soir, mais lorsque je suis avec des amis, on peut aussi fumer un joint ou même se livrer à l'absorption d'autres substances, quoi, je veux dire, quoi.
Du genre ?
Oh, bah, sans parler, évidemment, de ce que vous connaissez sur votre département, sur Paris, sans parler de crack et de tout ça, quoi, je veux dire, cocaïne, héroïne, des choses comme ça, quoi.
Oui. Vous prenez ça
mais
aussi ?
Je n'en prends plus. Mais des substances n'apportant pas dans l'immédiat une certaine dépendance, comme le crack à Paris. Parce qu'il suffit, selon certains médecins, il suffit de fumer une cigarette pour devenir complètement dépendant. Alors que l'héroïne et la cocaïne, bon, encore une fois, j'ai pas de compétences médicales, hein, je suis pas médecin, mais selon certains spécialistes, il faut plusieurs... plusieurs contacts avec certaines substances comme la cocaïne pour devenir complètement dépendant, quoi. Alors ça, bon, ça relève de l'avis de certains médecins, mais bon, je pense qu'ils sont suffisamment compétents. En l'occurrence, j'en parlais avec un addictologue l'autre jour pour prendre position sur le sujet. Bon, il aurait peut-être mieux fallu que je m'adresse, comme je vous le disais hier soir, à des personnes compétentes sur le plan médical, mais certaines personnes sur le plan médical prescrivent des médicaments mais qui viennent d'être mis sur le marché.
Oui. Donc, moi, je pense de toute façon, et ouais, je pense que vous m'appelez pour cela, je pense que les médicaments, c'est une chose. Mais ce combat-là, il se gagne. C'est un combat contre soi-même que l'on ne peut pas entamer tout seul. Mais je ne sais pas si vous écoutez. Justement. Je ne sais pas si vous écoutez souvent cette libre antenne. Donc, mais
oh bah si, je vous écoute. J'écris un petit peu sur les réseaux sociaux là.
D'accord.
Et puis après, j'écoute. Enfin, je vous écoute vous. Et puis j'écoute aussi souvent votre collègue. Et puis la personne, comme je crois que je vous en ai parlé hier soir, qui était psychologue de formation, là, qui intervenait souvent sur votre antenne, mais qui est parti sur une autre radio.
D'accord. Alors tout ça, en fait, tout ça pour vous dire que je considère moi que c'est un combat avant tout que l'on mène contre soi-même et que l'on gagne si on a vraiment envie de s'améliorer, en tout cas de gagner ce combat, ne pas penser que les autres vont le faire pour Vous voyez que la médecine, par exemple, elle peut contribuer à, mais les autres peuvent contribuer à. Mais le premier acteur de votre histoire, c'est vous, Jérôme. Et d'abord, qu'avez-vous tenté pour sortir de ces addictions ?
Je vous en ai parlé hier soir, brièvement.
Oui,
crois.
Non, vous m'avez dit que vous en aviez tenté plusieurs, mais
je sais plus,
vous
mais vu le temps
qui
nous restait, c'était pas suffisant.
Ben non, c'est pour ça qu'on vous reprend ce soir.
Quelques participations à certains groupes de parole, par exemple, comme les ceux qu'on trouve souvent sur Internet, là, les alcooliques anonymes, proposant certaines discussions, mais n'allant jamais trop loin, puisque comment dire, il n'y a pas un réel suivi, quoi, je veux dire, chez la personne, quoi. Comme on peut en avoir chez un psychiatre.
Ça n'est pas le concept.
Non, je ne sais pas si c'est réellement le concept, si vous me le dites.
Le concept des alcooliques anonymes, Jérôme, c'est d'intégrer une communauté où on reste anonyme, mais où on n'est pas tout à fait. Plus on l'intègre, moins on l'est, mais de son propre chef. Ça veut dire qu'on participe à un partage de son histoire et on identifie chez les autres certaines choses dont on pouvait croire qu'elles nous arrivaient qu'à nous seuls et que nous étions fous quelque part et fous alliés et finalement à identifier chez les uns les autres chez des personnes d'ailleurs qui peuvent venir de milieux tout à fait lointains ou différents de nous font que d'un seul coup, on se dit, ben, finalement, il y en a d'autres qui souffrent comme moi, il y en a d'autres qui sont tellement différents, mais ils souffrent des mêmes choses que moi, donc finalement, je ne suis pas si fou, en tout cas, je ne suis pas seul à être fou et à souffrir, et peut-être que, en regardant celui-là qui dit que ça fait 8 mois qu'il est abstinent, celui-là qui est abstinent depuis 5 ans, celui-là depuis 20 ans, et qui était comme moi avant, le tout, c'est de croire que c'est possible que cette personne-là, ça devienne vous. Voilà le principe des narcotiques anonymes. Le suivi, c'est celui qui vient poser ses fesses dans ces salles d'une manière régulière qui décide de ce suivi. Parce que le suivi, finalement, c'est le groupe. Le suivi, c'est de ne plus être seul. Le suivi, c'est d'être avec ses autres frères et sœurs de la communauté à aller boire un café après, partager en réunion, se raconter, dire quelles souffrances ont pu nous amener là. Un peu s'ouvrir aux autres, parfois se dénuder devant les autres quelque part, parce que parfois on peut raconter des choses intimes, mais avancer avec les autres. Et les narcotiques anonymes, où il n'y a aucun médicament pour le coup, parce qu'on évoquait les médicaments tout à l'heure, Jérôme, il n'y a que la puissance du groupe et la fraternité, l'amitié, l'amour même. Et c'est cette force-là dont je vous ai parlé hier soir et que vous avez balayé un peu vite, un peu même en vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais en méprisant un peu ce côté-là. Et je pense parce que vous n'avez pas sûrement saisi, ou comme plusieurs personnes qui ont déjà tenté plusieurs fois d'aller aux Alcooliques Anonymes, mais ça n'est jamais la première fois que ça marche. Pour certains, c'est la première fois. Pour d'autres, il va falloir 4-5 fois, une fois, et puis on arrête, et puis 3 mois plus tard, on revient. Moi, j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont tenté les Alcooliques Anonymes, et jusqu'à maintenant, je peux vraiment vous dire, Jérôme, que c'est sans doute le chemin le plus efficace que j'ai pu constater chez celles et ceux qui sont venus s'ouvrir et me parler de leur addiction. C'est pour ça que je pense que vous devriez y réfléchir.
D'accord. Une question également, devant être mise en perspective, c'est celle de, je vais peut-être vous faire bondir, mais de la responsabilité, comment expliquer, de la responsabilité collective de la société dans la vente d'alcool et des différentes politiques de santé publique des différents gouvernements ayant échoué depuis un certain nombre d'années maintenant.
Qu'entendez-vous par là, que l'alcool est en vente partout ?
Bon, je ne veux pas en revenir à un certain, comment on dit déjà, puritanisme, c'est ça ? Puritanisme des années 30, comme aux États-Unis, interdisant la vente d'alcool, mais on était dans un autre contexte. Quoi.
Oui, mais on
était dans les années 30.
Mmh. Oui. Pardonnez-moi, mais... Oui. On ne se retrouve pas alcoolique parce que il y a de l'alcool partout, mais vous voyez, il y a aussi des héroïnomanes et des cocaïnomanes, et il n'y en a pas en vente partout, vous voyez. Donc je pense que
il n'y en a pas en vente partout.
Faut pas aller chercher. Non, pas comme l'alcool en tout cas. Mais je pense qu'il ne faut pas que vous alliez chercher des excuses chez les autres en règle générale.
Vous avez raison de préciser que c'était pas en vente comme l'alcool, mais il y a quand même beaucoup de points de deal.
Oui, bien évidemment.
Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque Paris, il y en a une multitude, quoi.
Oui.
Je dis vous êtes bien placé pour le savoir, évidemment, je ne vous inclus pas dans cette responsabilité-là.
Je vous remercie. Mais j'habite Paris et je suppose qu'il faut quand même être un peu connaisseur pour acheter de la cocaïne, de l'héroïne, parce que ça n'est pas si évident, vous voyez, en tout cas, vous vous baladez dans Paris-Centre. Moi, en 40 ans à Paris, jamais on ne m'a proposé de la cocaïne ou de l'héroïne. Jamais.
D'accord. Mais tout dépend des arrondissements aussi. Et puis...
Oui, mais
on n'est pas là pour parler de la...
Non.
On n'est pas là pour parler de ma situation, on n'est pas là pour parler des... La répartition géographique.
Non, on est là pour parler de vous.
Différents points de deal sur Paris, quoi, je veux dire. Comme je vous le disais, ayant essayé beaucoup de stratégies, le sport étant également une certaine forme de thérapie dans certaines addictions, mm-hmm. comme l'alcool, la drogue, mais à un certain âge, on a d'autres objectifs que. Comment vous expliquer, même si je n'ai que 48 ans, que de se remettre au sport, quoi. Hein ?
Ça n'est pas un objectif, encore une fois.
Ne disposons pas des mêmes possibilités qu'à 25 ans.
Bien sûr.
À 25 ans, j'ai arrêté l'alcool. J'ai repris, j'avais environ une trentaine d'années. Je ne sais plus exactement pour quelle raison, boire entre amis, et après les choses se sont enchaînées.
Est-ce que, Jérôme, vous avez identifié depuis donc cette longue addiction, puisque visiblement vous avez identifié au moins sur la temporalité, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous souffrez de cette addiction, est-ce que vous avez identifié depuis le temps la source de tout ça, ce que vous fuyez, ce que vous allez chercher dans l'alcool, ce qu'elle vous amène.
D'essayer d'oublier, c'est ce que j'ai bien compris.
Oui, oublier quoi ?
Non, c'est difficile d'établir ça, quoi. Je veux dire, bon, consultant un psychiatre pour d'autres formes de pathologies liées à certaines formes d'anxiété qui sont en quelque sorte certainement liées à certaines addictions, puisque l'alcool, comme vous le savez peut-être, augmente l'anxiété. le cannabis aussi. Non, je ne me suis jamais réellement posé la question.
Vous devriez.
Et certains psychiatres ne disposant pas du tout d'un emploi du temps parfois approprié non plus, quoi, prescrivant des médicaments qui ont évidemment sur moi un certain impact sur l'organisme, comme je ne sais pas si je peux citer les médicaments.
Non, oui, mais peu importe, oui, mais ça ne dira rien à personne. Mais
carbamazépine 40 mg, 20 mg et citalopram 20 mg. C'est en fait des régulateurs de l'humeur qui sont utilisés dans certaines formes d'anxiété chronique et puis de développement de certaines,
okay.
Comment on appelle ça,
bon, si vous m'appelez aujourd'hui, forme de crise. Jérôme, si vous m'appelez aujourd'hui, ouais. C'est que vous êtes en quête de solutions, de trouver quelque chose qui puisse vous
tout
mettre
à fait,
sur la voie. Est-ce que vous avez été déjà dans ces salles? Est-ce que vous avez essayé d'aller dans ces salles? Vous m'avez dit hier habiter une municipalité de 70 000 âmes déjà. Donc ça veut dire,
oui,
déjà que vous êtes dans un endroit où il y a de grandes chances.
Dans l'ouest
que,
de la France.
Bon, il y a de grandes chances que les narcotiques anonymes et les alcooliques anonymes soient présents de manière ponctuelle.
Oui, oui, ils sont existants. Oui.
Bon. Est-ce que vous avez essayé d'aller là-bas? Oui ou non? Et combien de fois?
Oui, plusieurs fois. Mais pour entendre que. Enfin, je vais peut-être être discriminant envers certains, mais pour entendre des choses qui n'ont parfois rien à voir avec certaines formes d'alcoolique, quoi. Certains, comme on vous expliquait, débarlant certains problèmes n'ayant a priori rien à voir avec l'addiction à l'alcool. Même si souvent, l'alcool amène effectivement certaines difficultés dans la vie de tous les jours, quoi.
Oui, elle amène de grandes difficultés et visiblement, elle vous en amène beaucoup. Vous parlez d'angoisse, vous parlez d'une consommation quand même assez importante. Vous avez tenté de faire des cures, je suppose, plusieurs.
Qu'est-ce que vous appelez des cures?
Des cures où vous allez dans un hôpital un
non,
moment.
Non, non.
Non, vous n'avez jamais essayé ça non plus?
Mon psychiatre me proposant certaines cures, mais pas sous la contrainte, uniquement en considérant que je devais lui signer une déclaration comme quoi je devais me faire interner, entre guillemets, pendant une certaine période de 3 semaines, quoi.
Mm-hmm.
Mais pas sous la contrainte.
Non, non, donc, les cures ne sont pas sous la contrainte, hein, c'est...
Mais là, je pense qu'il considère que ma consommation d'alcool, enfin, je ne sais pas, je ne lui ai pas posé la question comme ça, mais je pense qu'il considère que, je vais peut-être vous faire bondir, mais ma consommation d'alcool n'est pas suffisamment importante pour intervenir vraiment en proposant un suivi, mais dans le cadre d'un hôpital spécialisé, quoi. En l'occurrence, un hôpital psychiatrique, une unité de psychiatrie, d'addictologie, c'est comme ça qu'on dit.
Non, enfin, je ne suis. On ne met pas les gens qui souffrent d'addiction obligatoirement dans une unité
psychiatrique.
Non, on les met dans une unité spécifique aux addictions. Dans beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui, vous avez des services qui sont dédiés à ces addictions. Il faut, je pense, que vous soyez clair avec vous-même, parce que votre psychiatre, vous lui prêtez cette pensée qu'il pense que ça n'est pas si important que ça. Moi, au contraire, je pense qu'il sait que c'est très important, parce que je doute qu'un docteur puisse penser que 6 à 8 bières à haut degré, comme vous les prenez visiblement chaque jour, ne soit pas problématique pour vous. En plus, ça se sent que vous êtes quelqu'un de très angoissé et que finalement, ça vous pose un véritable problème, cette addiction. En même temps, on vous sent très, très noué. Il y a beaucoup de choses.
Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter le podcast, là. Parce que le podcast d'hier soir, la courte intervention que j'ai faite hier soir.
Pourquoi ça? Pourquoi me dites-vous ça?
Non, parce que vous me dites, je vous sens angoissé, peut-être à la radio, je sais pas.
Oui,
mais
non,
j'ai pas
mais
lu...
là même, je vous sens angoissé. Je vous sens très en quête de vous expliquer vous-même. Je pense que vous vous écoutez aussi quand vous parlez, que vous essayez de trouver des explications psychologiques en même temps liées à cette addiction et à cette consommation.
Là, je ne peux pas m'écouter quand je parle.
Sans vraiment, non, mais sans vraiment, en fait, évoquer. Ça fait 20 minutes qu'on parle maintenant et on évoque à aucun.
Déjà
oui, et on n'en a plus que pour 5 minutes. On évoque tout ça depuis 20 minutes sans que vous ayez une fois évoqué ce dont vous souffrez réellement, ce que vous allez chercher dans tout ça, à part me dire oublier. Mais oublier quoi, je ne sais pas.
Oublier quoi, je ne sais pas, c'est difficile à déterminer. On a tous des trésors enfouis, mais.
Et ça, vous ne le cherchez pas avec votre psychiatre, ne vous demande pas ça. Vous n'avez jamais.
Comme je vous disais précédemment, il y a quelques minutes, il ne dispose pas suffisamment de temps pour évoquer tous ces problèmes. Quoi.
Vous le voyez vous le voyez combien de fois, votre psychiatre ?
Là, je le vois au mois de janvier prochainement. Vous voyez, on est au mois d'octobre.
Ben oui, mais donc, vous n'êtes pas suivi, au final.
Pas suivi au final, ben oui, mais malheureusement, je ne peux pas décider de la prise des rendez-vous, et puis, procéder à établir un autre protocole, quoi, je ne sais
pas. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
La psychanalyse, je n'y veux pas trop confiance, quoi.
Non, mais je ne vous parle pas de psychanalyse depuis le début, je vous parle de séjours plus ou moins prolongés pour vous, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, mais comme je vous l'ai dit au début...
Oui, mais je ne pourrais plus vous écouter.
Mais si, vous pourrez m'écouter. Vous pensez quoi ? Vous pensez que c'est la prison quand on se retrouve dans une unité, on a le droit d'écouter. Au contraire, vous voyez, hier soir, j'ai eu une grand-mère qui me parlait de sa petite-fille qui avait intégré une unité psychiatrique. Elle me disait « Mais non, mais elle ne prend pas le médicament, dites donc. » Mais non.
Je ne l'ai pas entendu, cette mémé-là.
Parfois, on peut se retrouver à l'hôpital psychiatrique juste pour se reposer, juste se poser. Et puis arrêter d'entendre les bruits de la société,
oui.
Là, tout ce souk qu'il y a dont on souffre et qui fatigue.
Je suis content de vous entendre dire ça. Je ne cherche pas à vous piéger en vous disant ça. Mais ça veut bien dire que la responsabilité... La société a une certaine responsabilité dans le développement de mon addiction à l'alcool.
C'est la place que l'on doit... C'est la place qu'on doit trouver dans cette société. Et c'est sûr que cette société, elle n'est pas évidente. Ça n'est pas facile de trouver sa place. C'est souvent un combat de tous les jours. Et nous sommes tous différents les uns des autres. Et certains sont plus fragiles que d'autres et ont du mal à trouver leur place. Et il est vrai que d'autres ne leur facilitent pas la tâche. Et sont souvent... violent avec des personnes qui souffrent d'hypersensibilité, par exemple, ou elles n'ont pas confiance en elles, ou souffrent du syndrome de l'imposteur, ou tout un tas de choses qui fait qu'on ne se sent pas à sa place. Moi, ce que je vous soumets avant que nous nous quittions, parce qu'on n'en a plus que pour 3 minutes, je vous soumets vraiment de changer de protocole, de vous attacher à l'idée qu'il va falloir que le protocole que vous suiviez est un protocole d'au moins 4 semaines minimum, que vous vous retrouviez à être pris en charge par une équipe de soignants qui tous les jours vous prennent en charge, tous les jours vous laissent la possibilité de parler, de vous exprimer au moment où ça sortira, parce que c'est le but de la manœuvre, c'est que plus le temps s'écoule, plus on a de chances de voir éclore quelque chose. Et souvent, ce sont des mots, ce sont des paroles qui traduisent le malaise, qui traduisent quelque chose qui, peut-être dans votre enfance ou dans votre adolescence, a fait que ça a craqué à un moment et que l'alcool est venu comme un remède, comme une solution. 4 semaines, ça permet de réfléchir à d'autres solutions et d'entrevoir peut-être une autre manière d'aborder la vie et cette société. Donc, vraiment, c'est ce que vraiment je vous conseille, Jérôme, c'est d'arrêter de penser que voir son psychiatre tous les 3 mois, c'est sérieux. Parce que pour moi, c'est le psychiatre qui n'est pas sérieux de vous donner des rendez-vous comme ça. Ce n'est pas vous. C'est qu'un psychiatre qui souffre, qui voit que vous souffrez vraiment d'une addiction profonde et qui visiblement vous angoisse beaucoup, je pense que c'est lui qui devrait prendre... le contrôle de tout ça et vous indiquer ce que je vous dis ce soir. Aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à une assistante sociale, vous pouvez vous adresser à votre médecin généraliste et lui dire « j'en ai marre, il faut maintenant que ça cesse, il faut que je fasse une cure, je suis addict à l'alcool et je n'en peux plus ».
L'addiction à ces formes d'alcool n'ayant pas jusqu'à certaines formes extrêmes de pensée au suicide et...
Arrêtez de penser que il y a plus extrême, plus machin, plus que truc. Vous souffrez
Non.
de quelque chose, donc il faut vous soigner. On s'en fout que la société vende de l'alcool, on s'en fout que les addictions soient ceci, cela. Moi, c'est de vous dont je vous parle. C'est de vous. Parce que je pense que
Mais ça...
vous avez ça dans les mains. Encore une fois, vous êtes acteur de votre propre vie. Donc il faut que vous preniez la décision, vous. Ok, Jérôme?
Sans vouloir vous offusquer, pour en finir,
Mais vous ne m'offusquez pas, vous ne m'offusquez pas.
ma thérapie en principale en ce moment étant de participer à certains groupes de discussion pour essayer de changer la société, justement.
Écoutez, si ça vous fait du bien. Mais moi, je pense qu'avant de penser à changer la société, vous devriez penser à vous et à changer des choses autour de vous et vous rendre l'existence un peu plus meilleure. En tout cas, je vous souhaite vraiment du courage et je vous embrasse et on vous embrasse tous ici. Courage, Jérôme.